Il est 13h ici à Washington, 17h à Mango et Dapaong au Togo. L'armée nigérienne a repoussé hier soir une attaque contre Barwa, une localité du sud-est proche du Nigeria, où s'étaient réinstallés des milliers d'habitants qui avaient fui de précédentes attaques djihadistes. Il y a eu une attaque contre Barwa et des pertes en vie humaine, même parmi les forces de défense et de sécurité, a indiqué une source humanitaire à Difa. Une attaque ennemie a été bien repoussée et plusieurs terroristes ont été tués, ainsi que deux soldats tombés sur le champ d'honneur, a affirmé de son côté sur sa page Facebook Jeunesse Difa, un groupe connu pour ses publications régulières sur la situation sécuritaire dans le sud-est du pays. Le président burundais Évariste Ndayishimiye s'est livré lors d'une réunion publique avec des magistrats à une violente charge contre l'institution judiciaire dont la corruption, dit-il, est une honte qui empêche le développement économique du pays. Partout où je vais, je reçois plus de 1000 doléances contre la justice par jour et je les trouve fondées, a déclaré le président devant plusieurs centaines de juges et procureurs. C'est une honte ce qui se passe dans notre pays, a-t-il insisté devant ses magistrats. En Tanzanie, trois policiers et un agent de sécurité privée ont été tués dans une fusillade non loin de l'ambassade de France à Dar es Salaam, la capitale économique. L'agresseur, dont les motivations sont pour l'instant inconnues, a été abattu par les forces de police. Six autres personnes ont été blessées dans ces échanges de tirs, a précisé le chef des opérations de police, Liberatus Sabas. Il a appelé les résidents à rester calmes pendant que la police mène une enquête pour connaître la nationalité de l'agresseur et son mobile. L'inspecteur général de la police, Simon Siro, soutient que l'homme armé était un étranger et la police pense qu'il venait de la Somalie. Selon lui, l'attaque pourrait être liée à l'insurrection djihadiste au Mozambique voisin. La présidente Samia Suluhu Hassan a présenté ses condoléances et ordonné à la police d'entreprendre une enquête approfondie sur l'incident. Après la mort de l'ex-président tchadien Hissène Habré, les victimes attendent toujours réparation. L'Union africaine, le Tchad et le Sénégal doivent tout faire pour nous indemniser. Monsieur Habré est mort, mais la lutte continue et nous ne lâcherons pas, a affirmé Jean Nuyoma Kouvusuna, 60 ans. Il affirme avoir été emprisonné et torturé sous le régime d'Hissène Habré. Comme lui, plus de 30 ans après la fin du régime, les victimes de cette sombre période de l'histoire tchadienne continuent de souffrir et de vivre dans un passé empreint de douleurs et de questions. Hors de l'Afrique, en Afghanistan, les talibans ont accepté que les Afghans puissent quitter leur pays après le retrait définitif des troupes américaines le 31 août, a affirmé aujourd'hui un diplomate allemand qui négocie avec les talibans à l'issue d'une rencontre au Qatar. Le chef adjoint du bureau politique des talibans au Qatar, Sher Abbas Stanezkai, m'a assuré que les Afghans possédant des documents valides continueront à avoir la possibilité de voyager sur des vols commerciaux après le 31 août, a affirmé Marcus Podel sur Twitter. En Iran, le nouvel exécutif a obtenu la confiance du Parlement et le président Ebrahim Raisi s'est engagé à travailler jour et nuit compte tenu des défis auxquels son pays fait face. À l'issue de 5 jours de débats et d'auditions au Parlement, le Parlement a donc validé le 18 et 19 ministres présentés par le vainqueur ultra-conservateur de la présidentielle de juin dernier. Des centaines d'enfants ont bravé aujourd'hui l'interdiction de manifester dans les camps de réfugiés Rohingyas au Bangladesh pour marquer le 4e anniversaire de la violente répression contre cette minorité en Birmanie qui a provoqué un exode de l'autre côté de la frontière, ont indiqué des responsables communautaires. Des parlementaires des partis au pouvoir à Taïwan et au Japon vont s'entretenir pour la première fois sur le thème de la sécurité, a annoncé un député taïwanais, alors que les deux voisins s'inquiètent des menaces militaires croissantes venant de la part de la Chine. C'est la fin de ce bulletin. Merci de votre fidélité à VOA. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un autre point sur l'actualité.
La avec John Linden pour VOA Afrique. En RDC, le ministère chargé de l'industrie doit présenter aujourd'hui le plan d'industrialisation du pays. Une conférence avec des bailleurs de fonds menée par le premier ministre est prévue. Avec ce plan, la RDC espère mobiliser jusqu'à 58 milliards de dollars. Le pays est l'un des rares en Afrique avec le plus faible niveau de réserve d'échange avec 1,3 milliard de dollars en 2020. Le Cameroun se projette dans la relance économique post-Covid par des conférences élargies de programmation budgétaire 2022-2024 adossées sur la stratégie nationale de développement. Selon Financial Afrique, le pays veut mener à terme les 854 projets en cours d'exécution. L'État compte investir au moins 10 milliards de dollars. La livraison des projets liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier 2022 figure dans ce plan du gouvernement camerounais. Plusieurs centaines de responsables d'entreprises et de gouvernements africains sont réunis depuis mardi à l'hippodrome de Paris-Longchamp. D'après l'agence Ecofin, cette rencontre organisée par le MEDEF a pour objectif principal de renforcer les échanges économiques et les investissements entre pays francophones et plus particulièrement entre les investisseurs français et les pays francophones du continent africain.
Musique et info pour chacun, VOA Afrique.
Le monde. d'aujourd'hui, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'information.